of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C. aux États-Unis. John Lyndon à la présentation, Michel Joseph assure la production de cette émission avec l'assistance de Sims Lumami et puis à la mise en onde, mon ami Souleymane Tarawale. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Dans l'Amérique et vous, ce vendredi, nous parlons de la situation en RDC et l'implication des États-Unis. Cette semaine, 7 sénateurs américains ont écrit au président Donald Trump lui demandant des sanctions additionnelles contre Kinshasa si le pouvoir congolais persiste à retarder les élections. Les sénateurs signataires de la lettre demandent également à M. Trump de nommer un ambassadeur pour la RDC, un secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines et un administrateur de l'Afrique à l'USAID. Les élus américains déplorent qu'une absence du leadership américain dans ces postes entrave la politique des États-Unis. Il faut dire en effet que l'accord politique signé à Kinshasa le 31 décembre 2016 a permis au président Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà de son mandat qui a expiré le 19 décembre dernier. Les acteurs politiques s'étaient convenus de repousser les élections au plus tard, le 31 décembre 2017. Mais à moins de 3 mois de cette échéance, aucun calendrier n'est annoncé. Alors que pensez-vous de l'implication des sénateurs américains dans la crise congolaise ou dans les autres crises africaines? Pensez-vous que des sanctions américaines résolvent réellement la crise? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Vos commentaires et réactions sont les bienvenus sur Facebook et en direct au 001-202-205-2623. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur VO Afrique. Pour nous accompagner dans cette émission, nous avons Henri Désiré Zosi, notre consultant habituel. Henri, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à nos auditeurs.
Merci pour votre fidélité à cette émission. Dans ce studio avec moi, Jean-Jacques Mamba du MLC. Jean-Jacques, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de l'honneur que vous nous faites d'être là. Nous avons également dans ce studio, nous aurons également dans ce studio notre collègue Eddy Isango qui a couvert pour nous cette actualité récente. Alors, on va commencer tout de suite par Jean-Jacques. Comment est-ce que vous appréciez la sortie des sénateurs américains?
Mais écoutez, je crois qu'ils ont fait une analyse de la situation qui me paraît tout à fait logique. Bon, ils parlent du leadership américain. Ce que je considère, moi, être important, c'est le sort des Congolais. C'est le sort des Congolais à la merci de M. Kabila, qui, au-delà de son deuxième mandat, a commencé à déconstruire l'État pour nous amener vers des terrains, des horizons incertains. Donc, je suis très préoccupé parce qu'effectivement, la classe politique, notamment l'opposition, lui a accordé un sursis. Et apparemment, il s'avère qu'il est tout à fait incapable de relever le défi. Et même, on peut considérer qu'il est l'auteur moral, si pas le reste, responsable de tout ce qui empêche qu'il y ait des élections dans les délais convenus. Donc ici, effectivement, je crois que les sénateurs ont bien raison de faire pression, mais je ne suis pas concerné par le leadership ou la politique américaine, je suis beaucoup plus concerné par ce qui se passe dans mon pays et par le sort des Congolais qui souffrent au Kasaï, qui souffrent un peu partout, les fonctionnaires qui ne sont pas payés, ainsi de suite.
Voilà, merci Jean-Jacques. Henri Désiré, Jean-Jacques parlait tout à l'heure de sursis, les sénateurs affaires américains disent que le président Kabila a fait preuve de mauvaise foi lors de cet ultime mandat, on va dire, hein, de un an, refusant de faire avancer le processus électoral dans son pays. Est-ce que c'est votre avis et déjà comment vous appréciez la sortie des sénateurs américains?
Alors, d'abord, j'aurais simplement rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport au leadership américain. Je pense qu'il faut plutôt concevoir ce leadership comme une capacité d'influence et d'action pour faire avancer le dossier congolais. Ceci dit, ce leadership n'est pas du tout nouveau. Les Américains ont toujours eu, je dirais, cette propension à pouvoir assumer ce leadership sur de nombreux dossiers. Pour répondre directement à votre question, je dirais que, une fois de plus, nous avons une prise de position qui correspond en fait à ce qui se passe réellement sur le terrain en RDC, c'est-à-dire une stagnation avec malheureusement un calendrier qui n'est toujours pas élaboré. Je rappelle que c'est depuis le 30 septembre que l'on aurait dû convoquer le corps électoral, ça ne s'est pas fait, ce qui n'augure absolument rien de bon, ce qui justifie d'ailleurs cette position américaine, en tout cas de ces 7 sénateurs, dont certains avaient déjà été à la manœuvre l'an dernier, entre juin et septembre 2016, souvenez-vous, lorsqu'ils avaient déjà sanctionné 4 généraux, hein, on va rappeler peut-être Kanyama, Anissi, Olenga et John Numbi. Cela étant, il faut considérer cela comme étant une possibilité pour essayer de convaincre Joseph Kabila et son entourage à revenir à de meilleurs sentiments pour faire en sorte effectivement que l'on puisse entrevoir enfin une issue heureuse par rapport au processus actuel.
Voilà. On a été rejoint dans ce studio par Idi Isango. Idi, bonsoir.
Bonsoir, John.
Voilà. Vous avez repris, hein, pour nos auditeurs francophones cette lettre donc des sénateurs américains sur le site internet de VOA Afrique. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel, vous qui êtes congolais et qui connaissez très bien la situation dans le pays?
Il faut plutôt retenir que les sénateurs américains, qui sont au nombre de 7, ont exprimé leur inquiétude par rapport à la situation de la RDC, vu que le gouvernement ne respecte pas l'esprit et la lettre de l'accord signé le 31 décembre 2016 qui octroyait un an supplémentaire à Joseph Kabila, dont le mandat s'était achevé le 19 décembre 2016. Bon, en fait, il lui demande de mettre sur pied cet accord et l'accuse de mauvaise foi en ne respectant pas cet l'esprit et la lettre, en nommant, comme ça s'est fait, à la tête du gouvernement, quelqu'un qui ne rencontre pas l'assentiment de toute la classe politique, notamment de l'opposition, parce que les premiers ministres devaient venir de l'opposition, mais aussi les présidents du Conseil national du suivi de l'accord. Donc, ils demandent au président, les sénateurs demandent au président Donald Trump d'exercer plus de pression sur le pouvoir de Kinshasa.
Voilà, on va prendre notre premier auditeur au téléphone, Brahima Doumbia, bonsoir.
Bonsoir, je vous appelle depuis Kinshasa au Mali.
Voilà, vous nous écrivez, donc, vous nous avez écrit sur Facebook et vous dites que les sanctions américaines et même l'intervention de ces sénateurs sont les bienvenues.
Effectivement, je pense que les sanctions sont les bienvenues. Vu aujourd'hui le contexte actuel en RDC, je pense que le président Kabila ne veut pas organiser les élections, même si la commission nationale d'organisation des élections est, si vous voulez, indépendante, mais je pense qu'elle dépend fortement de Kabila. C'est sa volonté, s'il le veut, les élections auront lieu, mais vu aujourd'hui quand même, je pense que d'ici la fin de l'année, il est impossible, même si dans le Kasaï ou dans les autres régions, il est difficile d'organiser une telle élection du fait de l'insécurité, du fait de l'instabilité. Je pense que si la volonté y est, les bailleurs de fonds pourront financer et pour que les réfugiés qui sont quand même à l'extérieur du pays puissent revenir et participer effectivement à la
à ce processus. De paix, merci beaucoup, Brahima Doumbia. Jean-Jacques, je vais sauter par la sortie de Brahima Doumbia, notre auditeur. Le président de la commission électorale a clairement dit en juillet dernier qu'il était pratiquement impossible d'organiser l'élection présidentielle à la fin de cette année. Est-ce qu'il ne se fait pas le porte-parole du président Kabila et vous, de l'opposition? Est-ce que vous n'avez déjà pas la réponse là, qu'il n'y aura pas d'élection?
Mais c'est tout à fait clair, dès lors que les agents même de la dite commission entament des grèves par-ci par-là, que les choses ne vont pas normalement. Si vous voulez, la CENI est indépendante, mais elle est tributaire des moyens lui fournis par le gouvernement. Et nous sommes en face d'un État en faillite qui est incapable de payer ses propres fonctionnaires. Et donc voilà, on est dans une situation d'abord d'irresponsabilité, d'incapacité. Et ce que M. Nang a dit répond à un agenda qui vise depuis déjà deux ans à voir dans quelle mesure M. Kabila peut exercer un mandat tacite. Ça veut dire au lieu de 5 ans révolus parce qu'il n'a plus de mandat, il peut comme ça en jouant avec le temps passer une année, deux années, trois années jusqu'à refaire l'ordre constitutionnel et amener la classe politique vers une nouvelle république. Je crois que M. Kabila n'a plus le choix parce qu'il n'a pas pu modifier la constitution. La seule possibilité qu'il y a maintenant, c'est de manœuvrer avec la CENI, avec la pseudo-insécurité qui est plutôt liée à une incapacité de gérer l'État pour faire traîner les choses et rester aux manœuvres aussi longtemps possible.
Alors, on sait, n'est-ce pas, que on est presque à moins trois mois de l'élection, de la fin de l'année, et qu'il n'y a toujours pas d'élection. Henri Désiré, si Kabila n'organise pas l'élection et qu'on voit tout ce qui se passe en ce moment dans le pays avec les forces pro-gouvernementales qui sont accusées notamment des violations des droits de l'homme, notamment dans le Kasaï, que faire pour arrêter d'abord ces massacres, et est-ce que Kabila est insensible à tout ce qui se passe dans son pays selon vous?
Alors, vous remarquerez qu'il y a plusieurs fronts qui se sont ouverts comme par hasard depuis maintenant quelques semaines, avec cette recrudescence des hostilités et de l'insécurité dans une partie du territoire, avec bien évidemment l'instabilité politique chronique, avec les grèves à répétition, avec la dépréciation de la monnaie nationale. Tout cela, selon moi, n'est pas du tout le fruit du hasard. Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'un gouvernement responsable, si tant est qu'il ait des marges de manœuvre, puisse agir de manière efficace? En réalité, aujourd'hui, la question qui se pose et qui, au fond, divise d'une certaine manière l'opposition et une partie de la classe politique, c'est de savoir si une transition avec ou sans Kabila est possible. Quelle que soit la réponse à cette question, on ne pourra pas faire l'économie d'un dialogue qui sera de toute manière chargé de régler les modalités entre les acteurs qui se lanceront dans l'une ou l'autre éventualité. Ça, c'est une chose absolument claire. Ceux qui appellent à une transition sans Kabila doivent savoir que pour y arriver, il faudra négocier. Voilà.
Voilà. Eddie, les massacres, on parle tout récemment, hein, on parle de plus de 5000 personnes tuées depuis 2016. C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Mais la crainte est que la situation telle qu'elle est, un peu confuse, puisse causer beaucoup d'autres morts. Parce qu'on sait, on voit les Congos aller comme contre le mur. Sûrement qu'il y aura des réactions, des manifestations. Et on sait, comme tu l'as souligné, que les forces de sécurité ne laisseront pas faire. On les accuse déjà de plusieurs violations des droits de l'homme, ce qui va entraîner la mort. Mais là, j'allais profiter pour justement poser à notre invité qui est sur le plateau ici, à Jean-Jacques, cette question
du MLC.
Oui, certains dans la classe politique parlent de cette transition qui devra se faire. Déjà, n'est-on pas dans une transition? À votre avis, quelle doit être cette forme de transition? Est-ce que vous acceptez de rester avec Kabila ou de le faire sans Kabila?
Effectivement, je pense que Kabila est le problème de ce pays. Nous sommes en période transitoire, on va le dire comme ça, parce que depuis le 19 décembre, il n'a plus de mandat. Il est à la tête de l'État et il gère mal l'État comme toujours. Je pense aussi que si on doit continuer avec lui, ça ne va pas fonctionner. Mais la grosse question, c'est de poser... La question à poser, c'est celle des moyens. Est-ce qu'avons-nous les moyens de respecter la Constitution? Parce que le MLC, c'est quand même un parti qui fait partie du Front pour le respect de la Constitution. Sommes-nous en mesure de faire respecter la Constitution? C'est-à-dire que la Constitution ne prévoit pas de transition. Déjà que là, nous sommes dans une démarche extra-constitutionnelle que nous avions acceptée pour des raisons de paix. Et M. Kabila n'a pas vu ça de cet œil. Et donc, est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui de garantir une transition qui va nous mener vraiment vers les élections? Et M. Kabila est-il prêt de partir? Est-ce qu'il faut que le sang coule? Et si le sang coule, est-ce que nous n'allons pas aller vers des horizons comme le Burundi? Donc, toutes ces questions-là méritent d'être posées parce que dans la région, M. Kabila est entouré de personnes qui ont prolongé de manière assez formidable, si vous voulez, ces fantasmagoriques leur mandat. Donc ces personnes ont traîné au pouvoir et elles ne sont pas le paradigme que M. Kabila peut suivre. Donc il va se retrouver le seul à déposer le pouvoir et je crains fort que ce soit une passe d'armes difficile.
Vous vous posez des questions, tout le monde se pose des questions, mais là-dessus, il y a l'Union africaine et même la SADC qui, et pour essayer de répondre à ça, vous propose d'aller à des nouvelles négociations. Est-ce que vous acceptez ?
Elle risque d'être sans objet parce qu'il faut qu'il y ait de la bonne foi dans l'exécution des accords. Nous avons convenu des choses et M. Kabila s'est employé à les déconstruire. Donc je ne vois pas comment est-ce que nous pourrions lui faire confiance. Maintenant, c'est vrai que nous avons un article, l'article 64. Il faudrait que la population sanctionne le chef de l'État, que la population sanctionne la majorité et qu'elle prenne les choses en main. Je pense que de manière très constitutionnelle, c'est la seule possibilité que nous avons pour faire fléchir M. Kabila.
Alors vous parlez de majorité, on essaye toujours d'avoir dans cette émission M. André Atundu qui est porte-parole donc de la majorité, mais les communications sont un peu compliquées avec Kinshasa. Cela dit, on va prendre d'autres auditeurs au téléphone. Diarra Kayoumea, bonsoir.
Oui, bonsoir, John. Bonsoir pour le plateau de VO Afrique. Je vous appelle depuis dans mon village natal à Sonikini.
Voilà, en quelques secondes, votre réaction.
Ok, merci. Je pense que vraiment c'est une bonne initiative que le sénateur américain est en train de faire au Congo d'aujourd'hui. Mais est-ce que M. Kabila va écouter le conseil des sénateurs? Parce qu'on a vu plusieurs différents dialogues, comme le dialogue catholique avec le moment que M. Ban Ki-moon était au pouvoir. Donc il était président de l'ONU, donc il a participé pour aller conseiller M. Kabila, mais jusqu'à présent il ne veut pas écouter. Mais est-ce qu'il va écouter les dialogues des sénateurs? Sinon, vraiment, ce que M. Kabila est en train de faire, vraiment, la crise politique congolaise est en train de jouer sur le peuple congolais.
Voilà.
Tous les dialogues, voilà. Il faut imaginer que toutes les choses sont dans la disposition de Kabila, mais jusqu'à aujourd'hui, combien de années il est au pouvoir, mais il ne peut pas céder de place. Donc, je pense
voilà.
Vraiment.
C'est entendu, Diarra Kayoumea. C'est entendu. On va prendre Hassan Omar au téléphone. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir.
En quelques secondes, votre réaction?
Alors moi, j'aimerais féliciter les États-Unis d'Amérique d'avoir proposé cette initiative du Congrès. C'est une très bonne initiative, mais est-ce qu'en pratique, qu'est-ce qu'on va avoir? Par exemple, j'aimerais demander aux intervenants qu'est-ce que réellement, est-ce que les États-Unis peuvent arriver jusqu'à militairement pour détrôner M. Kabila? Est-ce que réellement est-ce qu'on peut penser que militairement les États-Unis peuvent détrôner
Kabila? Alors je vais répercuter votre question à notre consultant Henri Désiré Nzozi. Est-ce que les États-Unis peuvent unilatéralement ou décider de faire débarquer Kabila par la force?
La question n'est pas du tout à l'ordre du jour et je ne suis pas certain que cela soit une solution. Je pense qu'il faut que l'Amérique puisse user de son influence pour essayer d'accroître en tout cas la pression, mais il est évident qu'en 2017, c'est le type de solution qui n'est pas du tout souhaitable.
Voilà. Je vais me retourner vers Jean-Jacques Mamba. Kabila est toujours là. On attend des élections, on attend l'élection présidentielle. Comment les choses se préparent-elles du côté de l'opposition? Est-ce que vous avez, on va dire, vous pouvez vous mettre ensemble pour avoir un candidat? Est-ce que l'élection telle que vous la voyez, c'est sans Kabila absolument? Ou il peut
il peut être candidat en essayant de changer les choses. Comment vous vous préparez?
Écoutez, la question des coalitions ne peut être posée que dès lors que nous avons un calendrier électoral. Vous voyez très bien qu'ici, on est encore en train de batailler pour que nous ayons ce calendrier et la certitude qu'effectivement, il y aura un dépôt des listes et que le nom de M. Kabila ne sera pas là. Donc, c'est une question qui n'est pas à l'ordre du jour. J'espère bien qu'elle pourra être posée dans des termes beaucoup plus clairs parce qu'effectivement, il n'y a qu'un seul tour à l'élection présidentielle et M. Kabila est un système. Ça veut dire qu'on ne doit pas être focus sur sa personne. Il peut bien être remplacé par son frère, sa sœur, par le président de la majorité ou le secrétaire général de la majorité. Ça ne changera rien du tout. C'est-à-dire que nous allons continuer avec les mêmes choses. Donc il faut une meilleure préparation, il faut un vrai projet politique, il faut aussi expliquer à tous ceux qui veulent ce changement quel en est l'intérêt. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que pour l'instant, celui qui nous pose des problèmes, c'est M. Kabila et on doit régler.
Voilà, on va prendre un autre auditeur au téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, j'ai pas bien saisi votre nom. Vous êtes monsieur?
C'est monsieur Amissé Thomas Biala, à Luanda.
Voilà, votre réaction?
Oui, ma réaction en ce qui concerne le président Kabila. Moi, je trouve que les États-Unis devraient vraiment faire en sorte que ce monsieur soit. Donc, puisse quitter le pouvoir par force. Parce qu'ils ont fait ça même avec monsieur Kadhafi. Mais pourquoi ne pas le faire avec Kabila? Parce qu'il est là. Il n'est pas en train de respecter les accords. Ne parlons même pas de la constitution qu'il a bafouée, qu'il ne veut vraiment pas respecter. Et il est là en train de continuer alors qu'il est en train de tuer, de maltraiter le peuple. Qu'est-ce voilà. que les États-Unis attendent pour le faire quitter du pouvoir?
Merci beaucoup pour cette contribution. On tire à la fin de cette émission. Je vais passer la parole à Eddie.
John, tout à l'heure, tu parlais de l'intervention ou quelqu'un a parlé de l'intervention.
Oui, militaire. C'est un auditeur. Est-ce que,
déjà, je peux dire, même si le pouvoir n'est pas ici, je peux reprendre l'opinion de la majorité qui qualifie en fait ce que les États-Unis font d'ingérence. Il demande, le président de la République l'a dit lors de son allocution devant l'Assemblée des Nations Unies, il a répété, il ne veut pas d'ingérence de la part de l'étranger, il veut que le problème des Congolais soit réglé entre Congolais avec l'aide, évidemment, l'appui de la communauté internationale de bonne foi. Des amis.
Voilà, au cours des quelques dernières minutes de cette émission, on va avoir Paul Nzapu de la Fédération internationale des droits de l'homme. Monsieur Nzapu, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, l'émission est vraiment arrivée à son terme, mais on voudrait avoir votre réaction sur la sortie des sénateurs américains et la situation des droits de l'homme en RDC en ce moment.
Oui, d'abord, toutes mes excuses. Hein. J'ai eu des appels impromptus. Mon téléphone était occupé.
C'est entendu.
Mais rapidement, je vous donne la réaction des organisations de défense des droits de l'homme.
En quelques secondes, vraiment.
Oui, nous applaudissons, nous appuyons cette position par rapport à une situation qui s'est aggravée et qui relève non pas seulement de la paix et de la sécurité du Congo, Kinshasa, du continent africain, mais également de toute la communauté internationale.
Merci
voilà,
beaucoup pour...
appuyons.
Oui. Vraiment, on est désolé, M. Zapou, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va passer la parole à M. Jean-Jacques Mamba pour son mot de la fin. En quelques secondes aussi.
Je vous remercie pour cette invitation. Donc j'espère bien que M. Kabila et ses amis de la majorité vont comprendre les implications de l'application de ce genre de sanctions, non seulement sur leur vécu quotidien, sur leurs avoirs, sur leur liberté de mouvement, mais aussi l'impact général sur la situation des populations.
Henri Désiré, quelques secondes pour conclure.
Oui, très rapidement, pour rappeler que l'Union européenne a infligé des sanctions à 16 personnalités, il y a de fortes chances que ce mouvement soit amplifié si jamais l'Amérique devait franchir le pas à son tour.
Voilà, Eddie. Le mot de la fin pour vous.
L'incertitude persiste. Il faudrait attendre d'abord que le gouvernement, le comité de suivi de l'accord et même la CENI s'entendent pour fixer un calendrier. Mais je crois que les élections pourraient peut-être ne pas avoir lieu l'année prochaine ou peut-être en début 2019.
C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi John Linden à la présentation. Au revoir.
Je pars bien.